Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Un premier reflux lors de la troisième mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Moins de grévistes et surtout moins de monde dans la rue aujourd'hui. Près de 2 millions de personnes selon la CGT qui comptait 800 000 manifestants de plus le 31 janvier. Est-ce de nature à décourager les contestataires et à redonner confiance à l'exécutif? Nous serons avec un représentant de la CGT et un autre du camp présidentiel après 19h20. Vous nous appelez au 39-21 pour réagir à l'antenne. Commençons comme tous les soirs par le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. De petits miracles avec des survivants retirés des décombres, des innombrables immeubles effondrés en Turquie, mais aussi de grandes douleurs avec les cadavres retrouvés. Plus de 6000 morts ce soir, témoignage d'un secouriste français dès le début de ce journal. Une troisième journée de mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. Moins de monde dans les manifestations, mais aussi moins de grévistes, vous l'avez dit. Nous ferons le point sur les chiffres et nous irons aussi à l'Assemblée où l'examen du texte a repris. Dans ce journal, une première médaille d'or française aux mondiaux de ski. Alexis Pinturault est sacré champion du monde de combiné. Et puis à la vôtre, le concours du meilleur sommelier du monde se tient à Paris jusqu'à dimanche.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Raphaël. Amélioration du côté des Pyrénées-Orientales. L'alerte orange à la neige a été levée. Alors quelques averses de pluie et bandes de nuages se maintiendront côté Roussillon. En Corse également, mais partout ailleurs. Ce sera du grand soleil, il fera froid. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. C'est une course contre la montre que mènent les sauveteurs après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.
Tenter de retrouver des survivants sous les décombres dans des régions difficiles d'accès, dans le froid et la neige. L'aide internationale a commencé à arriver aujourd'hui, notamment des secouristes français de la sécurité civile, mais aussi du GSCF, le groupe de secours catastrophe français, association humanitaire créée par Thierry Velu. Il raconte le premier sauvetage qu'il vient de réussir avec son équipe d'une dizaine de pompiers.
On est sur les lieux de l'épicentre et là on vient de découvrir une victime qu'on a sortie, on a mis 3 heures à la sortir. Alors c'est énormément de soulagement parce que les températures sont glaciales, il fait très froid, donc les personnes qui sont malheureusement encore coincées sous les décombres, leurs jours sont actuellement comptés. Les personnes restent au pied de leur immeuble en espérant retrouver, avoir une lueur d'espoir pour retrouver des personnes disparues. Toutes les rues sont difficiles à pratiquer en véhicule, donc c'est totalement impossible. Et actuellement, on est obligé de faire des kilomètres à pied pour atteindre certains immeubles. Ça va faire bientôt plus de 24 heures que nous avons dormi. Et nous allons continuer encore toute la nuit pour essayer de trouver le maximum de personnes sous les décombres.
Voilà les efforts d'un secouriste français en Turquie. Propos recueillis par Romain Biteau.
Un bilan toujours plus lourd ce soir. On en est à plus de 6000 morts dans les deux pays, en Turquie et en Syrie.
Et on est sans doute encore très loin du bilan définitif. Le président turc Erdogan a décrété l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées. 45 pays ont proposé leur aide. En attendant, les habitants et les premiers sauveteurs tentent de sauver des vies, souvent à main nue, Caroline Baudry.
Oui, en enlevant pierre par pierre, parfois à l'aide de barres de fer, les débris qui recouvrent les corps des victimes et leurs appels au secours. Cet homme a survécu au séisme à Antioche. Il témoignait au micro du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio.
Je suis resté bloqué pendant 9 ou 10 heures sous les décombres. Beaucoup de gravats étaient tombés sur moi. Quelqu'un essayait de me dégager par au-dessus et moi je poussais par en dessous. Il a d'abord sauvé ma femme, puis il est revenu me chercher. Que Dieu vienne en aide à tous ces gens ici. On était avec eux en dessous. Certains y sont toujours. C'est terrible. J'en souffre.
Adieu. Dans la région où se trouve l'épicentre du séisme, les secours ne sont jamais arrivés. Sur les images qui nous parviennent, la zone recouverte de neige n'est pourtant que ruine et désolation. Ali a perdu ses proches et implore l'aide des autorités turques.
Regardez notre situation ici. Où est l'État? Où sont-ils? Je ne peux pas faire revenir mon frère des ruines. Je ne peux pas faire revenir mon neveu. Regardez autour de vous, il n'y a aucun représentant de l'État ici, pour l'amour de Dieu. Depuis 2 jours, nous n'avons pas vu l'État par ici. Ils n'ont pas apporté une seule brique, pas une seule. Les enfants sont gelés par le froid.
Les hôpitaux sont saturés, les blessés parfois traités en pleine rue. Dans le chaos, les rescapés grelottent. Dans certaines villes, ils sont accueillis dans des gymnases, des collèges ou les mosquées. Mais beaucoup préfèrent dormir dehors par crainte de nouveaux effondrements.
Caroline Baudry, et cet après-midi, une minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale en hommage aux plus de 6000 morts de cette tragédie.
Voilà, un peu de calme dans une ambiance toujours aussi houleuse, on va y revenir, mais d'abord, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Oui, d'abord dans la rue, quelques 200 défilés dans toute la France à l'appel des 8 principaux syndicats, notamment à Paris où la CGT a compté 400 000 manifestants comme le 19 janvier. Johann Tritz, vous êtes à la Bastille où la fin du cortège est en train d'arriver.
Oui, ici, il y a encore du monde, alors que le cortège vient juste d'arriver, de finir. Des manifestants sont même encore perchés sur la statue qui trône au milieu de la place. Alors, beaucoup de monde, hein, oui, mais l'impression visuelle est moins forte que lors du 31 janvier dernier. C'est vrai que nous sommes au troisième jour de manifestation, mais tout le monde tient bon ici, explique Sylvain.
On lâche pas, on tient toujours bon, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, faut pas lâcher du tout. Là, je suis content parce qu'il y a des personnes, c'est leur première manifestation. Donc ils sont vraiment motivés. Donc faut tenir, faut pas lâcher.
Pas de relâchement donc après ce troisième jour de combat. Ici, le moral est bon pour Guillaume, même s'il y avait moins de monde aujourd'hui.
Il y a un peu moins de monde parce que les gens, évidemment, ils vont se garder un peu. On peut pas s'épuiser non plus. C'est pas grave qu'il y ait un peu moins de monde. Hein. Ça va continuer sur la longueur. Ça veut dire que justement, à mon avis, le mouvement ne s'essouffle pas. Qu'il rentre dans son rythme de croisière, on va dire. Et on lâchera rien, ça c'est sûr.
Des manifestants plutôt motivés hein, pour continuer le combat. C'est le cas de Nathalie. Elle n'a pas du tout envie de s'arrêter là.
Tant qu'on n'aura pas réussi à annuler cette réforme, je continuerai à venir en manifestation. Je suis motivée, c'est pour la bonne cause.
Et prochain rendez-vous le 11 février, samedi, où les manifestants espèrent ici être encore plus nombreux.
Johann Tritt, dans la manifestation parisienne où le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, était en tête de cortège, il lance un appel au durcissement du mouvement.
Plus il y a de monde dans la rue, plus ça perturbe le schéma qui était écrit, je ne sais pas, peut-être à l'Elysée au mois de novembre dernier. Ceci dit, on est bien conscient que si ça ne suffit pas, il faudra durcir le mouvement. Et si les mobilisations de rue, mais on l'a toujours dit à la CGT, ne suffisent pas, ce qui semble être le cas, eh bien, les mouvements vont se durcir. Il y a un temps pour les manifestations, pour les grèves une fois par semaine. Et puis, si le gouvernement n'entend pas raison, bah, on passera à la vitesse supérieure. En tout cas, on proposera aux salariés de passer à la vitesse supérieure par plus de grèves reconductibles.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui parlait donc de grèves reconductibles. Pour l'instant, les grèves, elles sont plutôt en perte de vitesse, que ce soit dans les transports ou dans l'éducation. Qu'en est-il des manifestations, William Molinier ?
Eh bien, même constat du côté de la participation. Le nombre de manifestants est en baisse un peu partout. On attend encore les chiffres officiels de la place Beauvau, mais ils seront sans doute inférieurs aux 1 272 000 personnes de mardi dernier. Déjà, les syndicats reconnaissent une baisse pour cette troisième journée de mobilisation à Paris. Selon la CGT, il y a eu 400 000 personnes dans la rue. C'est 100 000 de moins qu'annoncé la semaine dernière. Une source policière évoque pour Paris 57 000 personnes, soit 30 000 de moins. Rouen, 8 700 manifestants selon la police, contre 13 800 mardi dernier. Clermont-Ferrand, 9 200 contre 17 000. Et quelques incidents à Rennes où la police a eu recours aux engins lanceurs d'eau pour faire cesser les dégradations. 8 personnes ont été interpellées. À Paris, des Black Blocs s'en sont pris à des commerces. Ils se sont réfugiés dans le carré de tête, ce qui a poussé les forces de l'ordre à scinder le cortège en deux. 17 interpellations à ce stade dans le cortège parisien et quelques difficultés ce soir, place de la Bastille, où des manifestants violents tentent d'arracher les palissades de protection des commerces. Vigilance donc pour cette dispersion qui est toujours en cours.
William Molinier, 4000 policiers, on le rappelle, étaient mobilisés dans la capitale, 11000 au total dans toute la France. Notez enfin que des perturbations sont encore prévues demain à la SNCF, car la CGT Cheminots et Sudrail appellent à la grève. Il faudra compter en moyenne 2 TGV sur 3, la moitié des intercités et des TER.
Et nous serons d'ailleurs tout à l'heure avec un représentant de la CGT RATP. On marque une pause sur Europe 1. Nous étions dans la rue pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On passe côté hémicycle dans quelques instants. N'oubliez pas le 39-21 pour réagir à l'actualité sur l'antenne d'Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
Il est 19h12 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zelani avec les chiffres du ministère de l'Intérieur qui viennent de nous parvenir. Il y avait, selon la place Beauvau, 757 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui, dont 57 000 à Paris, donc pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous l'avons évoqué avant la pause. On en vient maintenant aux discussions des députés sur les retraites à l'Assemblée nationale.
Oui, après la journée d'hier, sous haute tension et les différentes motions rejetées, ils ont repris l'examen des amendements. Alexandre Chauveau, les premiers votes ont déjà eu lieu et ils sont pour l'instant très serrés.
Oui, à l'image de celui qui vient d'avoir lieu, un amendement de suppression de l'article liminaire qui a été rejeté, mais à 10 voix seulement, d'où l'importance que chaque député soit bien présent dans l'hémicycle. Les bancs de l'Assemblée sont donc toujours bien garnis ce soir, mais l'ambiance est un petit peu moins électrique qu'hier, malgré quelques sorties de la France Insoumise, comme David Guiraud.
La tempête sociale qui se prépare va vous balayer, collègues !
La NUP encouragée par la contestation dans la rue, mais qui s'oppose aussi sur le fond du texte. Écoutez cet échange il y a quelques minutes entre Sandrine Rousseau et Gabriel Attal.
Notre ligne de fracture principale entre vous et nous, c'est que nous mettons la vie des gens au-dessus des comptes et vous mettez les comptes au-dessus de la vie des gens.
Madame Rousseau, non. Il n'y a pas ceux qui parlent des vies et ceux qui parlent des comptes, ça n'est pas vrai. Parce que les Français, ils savent très bien quand même qu'il faut un système de protection sociale financé. Vous leur faites croire qu'il n'y a pas d'enjeu budgétaire, mais c'est une réalité. Ça n'empêche pas de parler des vies, Madame Rousseau.
Les Républicains et le Rassemblement National sont à ce stade un peu plus discrets, dans l'attente vraisemblablement de l'examen des prochains articles qui touchent davantage au cœur de la réforme.
Alexandre Chauveau en direct de l'Assemblée nationale, une assemblée où le groupe écologiste a donné son feu vert à la fin de la mise en retrait de Julien Bayou. L'enquête interne sur les accusations de violence psychologique est close, mais il ne pourra plus prendre la parole dans les médias au nom du groupe.
Allez, de l'air frais, rejoignons les cimes de Courchevel pour les mondiaux de ski alpin avec une première Marseillaise aujourd'hui.
Oui, un cocorico, une médaille d'or qu'on doit au régional de l'étape, Alexis Pinturault. Il a grandi à Courchevel et décroche donc la première médaille tricolore, Cyril de la Morinerie.
Eh oui, journée de rêve pour Alexis Pinturault et l'équipe de France sous le soleil sur cette belle piste. Eh bien, le skieur de 31 ans a skié à la perfection, une première manche de vitesse en super G où il a filé à toute vitesse, meilleur temps, et puis une manche de slalom sur le mur des Braves où il s'est amusé entre les piquets dans l'air d'arrivée de se combiner. Le skieur de Courchevel tombe dans les bras de son épouse Romane et salue les supporters dans une ambiance de feu.
Alexis Pinturault,
champion du monde, une victoire que l'enfant du pays n'est pas prêt d'oublier, d'autant qu'il n'était pas dans sa meilleure forme.
C'est assez incroyable, dans le sens où j'ai eu un début de saison un peu difficile, c'était pas forcément du coup attendu. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est ma plus belle victoire en carrière. Je gagne en France, sur les championnats du monde en France et encore plus dans ma station, donc ça rajoute quelque chose qui est un supplément d'âme finalement.
Une Marseillaise, vous l'entendez, pleine d'émotions, Alexis Pinturault, qui n'était plus monté sur la première marche du podium depuis près de 2 ans, et son succès en Coupe du Monde va décompresser ce soir. Le héros veut en profiter avec ses proches, il a bien raison, avant de se projeter vers le Super G jeudi, où il sera l'un des grands favoris.
Merci Cyril de la Morinerie. Bonne raclette ce soir à Courchevel.
Avec raison, et un petit verre de vin blanc.
Voilà, avec modération.
De savoir, avec modération bien sûr.
Voilà, un petit verre de vin blanc long sur le fruit, le croquant, le vin toujours à consommer avec
le petit apremont.
Avec modération, mais toujours discernement. Merci bien pour sûr. Cette transition, cher Cyril, puisque nous partons pour le concours du meilleur sommelier du monde. Ça s'est ouvert aujourd'hui à Paris.
Et oui, jusqu'à dimanche, près de 70 candidats venus de 67 pays s'affrontent pour décrocher le prestigieux titre. La dernière victoire de la France date de 1992 avec Philippe Faure-Brac, qui est membre du jury cette année. Qui mieux que lui pour nous dire comment le vainqueur sera choisi ? Reportage de Margot Faudéré.
La gorgée test, c'est le premier geste que doit maîtriser un sommelier. Et contre toute attente, cela vaut aussi bien pour un verre de vin que pour un verre d'eau.
On a une eau qui est franche, qui est assez incisive. Il y a une petite pointe d'amertume en finale qui lui donne une certaine longueur.
Car un sommelier doit pouvoir conseiller tout type de boisson à ses clients, rappelle l'ex-vainqueur Philippe Faure-Brac.
Il y aura du vin, bien entendu, puisque c'est quand même le cœur du métier. Tous les spiritueux, les cognacs, les whisky, les bières également, l'eau bien sûr.
Cette semaine, les candidats vont s'affronter sur toute une série d'épreuves, à commencer par la dégustation, épreuve phare du concours.
C'est de dissocier pour trouver un ensemble. Et c'est grâce à cette méthode qu'on arrive à analyser, parler et identifier effectivement l'origine des produits.
À côté de ce classique, des épreuves de service ou d'argumentation commerciale, mais au-delà des compétences techniques, les candidats sont aussi jugés sur leur personnalité.
Sommelier, c'est pas simplement quelqu'un qui sait, c'est l'écoute des gens, avoir envie de faire plaisir aux gens. Dans les concours, c'est ceux qui brillent de cet aspect-là de leur personnalité qui remportent.
À la clé, le titre du meilleur sommelier du monde, bien souvent synonyme de visibilité et d'accélérateur pour sa carrière.
Et pour la première fois, la finale du concours sera ouverte au public dimanche. Quelques 3000 personnes pourront ainsi découvrir le ou la gagnante en direct. Les marchés financiers maintenant avec Didier Hameau de boursier.com. Didier, Paris termine en toute petite baisse.
Oui, pratiquement stable. -0,07%. Une toute petite baisse, effectivement. 7132 points sur le CAC 40 en attendant les nouvelles annonces des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale américaine, avec une nouvelle intervention de son patron ce soir, Jérôme Powell. En Bourse de Paris, après ses résultats, BNP Paribas monte quand même de 2,6%, 62,34€ pour BNP Paribas, aidé par un plan de rachat d'actions massif de 5 milliards d'euros. Ailleurs, c'est très hésitant en Europe aussi. Francfort cède 0,1%, Bruxelles moins 0,4%, Madrid est inchangé. Le CAC 40 recule légèrement de 0,07%, 7132 points.
Merci Didier Hameau.
Et merci à vous Hélène Zélani, on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau journal. La météo, Marlène Duret, le temps pour demain, ça va mieux du côté du Roussillon.
Et oui, je le disais tout à l'heure Raphaël, l'alerte à la neige a été levée. Alors bon, nuages agrémenté de petites averses pour ce mercredi, où ça donc dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, ça déborde sur l'Ariège, même côté Corse aussi, avec une limite pluie-neige se situant vers 400-500 mètres sur l'île de Beauté et 700-800 sur l'est des Pyrénées.
Alors ailleurs, c'est soleil et froid.
Oui, voilà, en deux mots. Du grand soleil, il fera froid le matin, plus que ce matin en tout cas, pas de couverture nuageuse dans le ciel, donc la chaleur s'échappe. Quelques brouillards givrants très localisés sont possibles vers le Nord-Pas-de-Calais, en Val-de-Saône, au pied des Pyrénées. Les vents en Méditerranée auront faibli, passons direct aux températures. En matinée, prévoyez des gelées généralisées entre 0 et moins 4 degrés dans la plupart des régions. Moins 5 à Mulhouse, Grenoble, Montluçon, jusqu'à moins 8 dans le Massif central et vers les Alpes. Elles restent positives en bord de mer avec 1 à 5 degrés. Et puis l'après-midi, les maximales seront comprises entre 3 et 7 degrés sur un grand quart nord-est, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, et 8 à 12 partout ailleurs.
Merci beaucoup Marlène
Duret. On est un peu en dessous les moyennes.
C'est bien noté, on a bien compris. Merci beaucoup Marlène, à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur le temps. On marque une pause et on va retrouver le député Renaissance Louis Marguerite. Nous allons commenter avec lui cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un premier reflux puisque le ministère de l'Intérieur vient de publier son estimation. Il y avait, selon la place Beauvau, 757 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui. Selon la CGT, c'est près de 2 millions dans tous les cas. Ça baisse par rapport au 31 janvier. Appelez-nous au 3921 pour réagir. À tout de suite.